RTL Original Podcast.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Pacou, directeur de l'Observatoire de l'Habitat, et Michel-Edouard Ruben, auteur de plusieurs ouvrages sur la question du logement au Luxembourg. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va.
Bonjour.
Merci d'avoir pris le temps de venir en studio. Alors aujourd'hui, le sujet qu'on aborde, il est un peu technique. Alors on va s'accrocher, puis on n'hésite pas à nous envoyer des questions via notre application rtlinfo.lu. Antoine, Michel-Edouard, on se retrouve pour parler de la fameuse réforme de l'impôt foncier. Une réforme qui traîne depuis si longtemps dans les tiroirs du gouvernement qu'il a fallu la dépoussiérer avant de la présenter il y a une quinzaine de jours. Clin d'œil au rédacteur de la Chambre des députés, c'est pas moi qui le dis. Peut-être peut-on commencer par rappeler ce qu'est l'impôt foncier. Antoine, c'est un de vos domaines de prédilection, je vous laisse la main.
Oui, donc l'impôt foncier, c'est la somme annuelle que doit payer un propriétaire pour tout bien immobilier ou foncier détenu. C'est une taxe qui est prélevée dans presque tous les pays européens sauf Malte, mais Luxembourg est le pays où ce taux représente la part la plus faible des recettes des impôts. Donc à part Malte qui n'en a pas, le Luxembourg est vraiment tout en bas de l'échelle, et ça a été identifié par la Commission européenne, par le FMI, par l'OCDE comme une anomalie au niveau européen. Au vu aussi des prix immobiliers et fonciers dans le pays. Donc ça, c'est vraiment le côté impôt foncier qui est prélevé sur tous les terrains et tous les appartements et toutes les maisons du pays, et qui est vraiment très faible par rapport au prix et la valeur des biens.
Alors actuellement, le calcul de l'impôt foncier se fait sur base d'une loi qui va fêter ses 84 ans. Autant dire qu'elle n'est plus en adéquation avec la valeur du foncier actuel. Je me souviens d'ailleurs d'une anecdote qu'avait raconté l'ex-ministre de l'Intérieur, Taina Boferding, à ce sujet. Elle avait confirmé qu'en conférence de presse que ses services avaient trouvé des contribuables qui ne payaient que 70 centimes par an d'impôt foncier. Alors je vais faire la bonne poire en vous posant la question suivante à tous les deux. Fallait-il réformer le système pour autant ? N'est-ce pas une bonne nouvelle lorsqu'on paye moins d'impôts ?
Alors, la réforme de l'impôt foncier en tant que telle ne va pas changer le montant des recettes. Ça a été dit plusieurs fois. L'idée, c'est juste d'avoir une façon plus objective de calculer l'impôt foncier qui est dû pour avoir des contribuables qui sont égaux face à l'impôt, et pas deux personnes qui ont des maisons contiguës qui payent une 10 euros et l'autre 100 euros. Mais l'impôt foncier, c'est pas vraiment, je dirais, le nerf de la guerre. Là, je pense que vraiment ce qui est nouveau dans ce qui est proposé, c'est l'impôt à la mobilisation.
On va y arriver, oui.
Okay.
Moi, je tenais juste à dire que s'il est vrai que dans la réforme qui est prévue, l'impôt foncier n'est pas le nerf de la guerre, c'est le nerf de ma guerre, personnellement. Je souhaiterais en parler pour faire remarquer. Vous avez donné l'exemple de la ministre qui dit qu'on trouve des gens qui payent 70 centimes d'impôt foncier. De façon générale, au Luxembourg, les gens qui payent l'impôt foncier, donc là je parle volontairement des propriétaires occupants, la majorité d'entre eux, ils vont payer beaucoup moins d'impôts fonciers que ce qu'ils vont payer, enfin pas la majorité d'ailleurs, la totalité, vont payer beaucoup moins d'impôts fonciers sur les, je parle volontairement des propriétés occupants, que ce qu'ils vont payer en taxes d'aéroport quand ils vont partir pour un petit voyage en restant en Europe. Donc c'est une anomalie terrible, anomalie qui ne sera pas corrigée, et j'invite juste tout le monde à avoir à l'esprit que l'impôt foncier pour un propriétaire occupant, c'est une autre façon d'avoir un impôt sur la fortune. Donc, il y a quelque chose d'insensé, alors que tous les quatre matins, tout le monde a à la bouche, comme si c'était une chatterie pour ne pas donner les plaisirs de Babine, les questions d'inégalité. C'est un insensé, et c'est aussi pour le coup un impensé, puisqu'on a décidé de ne pas changer la chose, d'avoir, puisque l'exemple est donné par le ministère lui-même, quelqu'un qui peut habiter dans une maison libre de tous côtés, 6 heures à Merche, et il est prévu, dans une réforme, que cette personne-là pourrait être devable de 50 à 140 euros d'impôt. Et tout le monde trouve ça normal. Je le dis, je le crois, c'est pas à ce niveau-là, c'est pas une erreur, c'est juste une faute. Lorsqu'il est su qu'il a besoin de moyens pour faire tout plein de choses, qu'il y a tout plein de crises qu'il faut gérer, qu'il y a tout plein de dépenses publiques qu'il va falloir financer, c'est quand même une masse dans un pays où il y a un certain nombre de propriétaires, où il y a un certain nombre de propriétaires qui en plus ont fini de payer leur crédit immobilier. Il y a un accord luxembourgeois transpartisan qui fait que tout le monde le dit d'ailleurs, hein, qu'il ne faut absolument pas toucher la résidence principale. Peu importe ce que c'est que cette résidence principale, que ce soit quelqu'un qui vit dans un petit studio qu'il a acheté lui-même avec un crédit à taux variable et qu'il est propriétaire que depuis 3 ans, que ce soit quelqu'un qui habite dans un mini château au Limpersberg et qui a hérité du bien et qui donc il n'y a pas de crédit dessus. Dans les deux cas, cette personne-là va payer un impôt foncier qui sera anecdotique, pour citer la phrase d'un professeur de l'Université du Luxembourg. Je trouve ça curieux, bizarre, et comme je dis, c'est de mon point de vue, pas une erreur, c'est quasiment une faute. Même. Oui, c'est ainsi.
C'est tout à fait raison. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'économistes qui disent que ce serait beaucoup plus logique de plus taxer la terre et de moins taxer le travail. Parce que la terre est aussi plus facile à taxer, elle ne bouge pas. Et donc, c'est une façon de prélever aussi plus justement les impôts et de faire contribuer ceux qui gagnent en valeur juste en étant propriétaires d'un terrain dans un milieu dynamique, de faire contribuer une partie de cette valeur à la... aux recettes générales de l'État.
Je précise, je sais que Pacu, c'est implicite dans ce que je dis Pacu, mais je le précise quand même, quand il dit la terre, évidemment, il parle aussi des propriétaires occupants, parce que quand vous êtes propriétaire d'un logement, il ne faut pas penser terre, juste terre vide de toute construction. Il parle aussi de propriétaires, quand il dit terre, il parle aussi de gens qui possèdent des logements, parce qu'aujourd'hui, au Luxembourg, si vous êtes assez chanceux ou assez riche, les deux allant ensemble, c'est pas pour rien que fortune est synonyme de riche et de chance à la fois. Donc si vous êtes assez chanceux et riche pour vivre quelque part dans un logement qui fait 300 mètres carrés et que vous êtes vous, votre épouse, vous, votre époux, une salle pour la lecture, une salle pour la collection de montres et une salle pour je ne sais quoi d'autre, vous payez aujourd'hui un impôt foncier rikiki et demain quand cette réforme sera éventuellement votée, vous continuerez à payer un impôt foncier rikiki. C'est une erreur, voire une faute.
Alors, vous le savez aussi bien que moi, hein, c'est pas la première fois que le gouvernement luxembourgeois tente de réformer l'impôt foncier. La dernière fois, c'était en 2022, et la réforme avait échoué. Aujourd'hui, on découvre une nouvelle version de ce projet de loi, garnie de 66 amendements et d'une exclusion très particulière. On reviendra dessus dans quelques instants. Antoine et Michel-Edouard, vous vous êtes penchés sur ce texte de loi. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2022, ou du moins, quelles sont les lignes directrices? Pour ma part, ce sont surtout les exemptions, les allègements fiscaux qui ont attiré mon attention.
Oui, je pense que la première chose à dire, c'est que la réforme de 2022 n'a pas vraiment échoué. Je pense que le Conseil d'État a remarqué des choses et a voulu que certains des recours ou des procédures de recours soient clarifiées, mais le Conseil d'État a quand même validé l'esprit de la réforme de l'impôt foncier et de l'impôt de mobilisation et de l'impôt de non-occupation en disant que c'était des choses absolument nécessaires et urgentes pour le pays. Donc je pense qu'il faut relativiser un petit peu cet
échec. Je parle d'échec, c'est non-adoption.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Mais je pense qu'il y a une partie de la presse qui avait vraiment titré sur l'impôt foncier, complètement été rejeté, personne n'en veut, le Conseil d'État est contre. Je pense que ce qu'on voit maintenant, est le fait que le gouvernement en exercice a quand même gardé l'esprit général de cette loi, c'est qu'on a maintenant les 4 grands partis du pays qui ont signé une version de cette réforme de l'impôt foncier. Et donc, il y a quand même un accord transpartisan pour faire quelque chose et pour avoir une version, une mouture de l'impôt de mobilisation. Et moi, pour moi, ça, c'est quand même un signe très, très positif, parce que c'est vrai que j'avais toujours peur que ce côté mobilisation soit enterré, parce que c'est vrai qu'il va vraiment à l'encontre de la façon dont le Luxembourg gère le problème de la terre et du foncier et du logement depuis le début du pays. C'est pour la première fois qu'on propose vraiment de mettre une entrave aux stratégies de transmission intergénérationnelle des terrains qui priment au Luxembourg depuis avant même l'Ancien Régime. C'est vraiment dans l'ADN du pays de pouvoir sans entrave passer toute propriété, tout terrain, sans payer d'impôt de succession et sans payer d'impôt foncier conséquent à ses enfants. Et là, c'est vraiment cet impôt de la mobilisation, c'est la première fois qu'on propose de mettre les propriétaires de terrain sous pression. Bien sûr, ça va prendre du temps et il y aura des exceptions, mais il y aura quand même un changement qui, si on le met ça si on remet ça dans la frise historique longue du Luxembourg, c'est vraiment un changement structurel dans la façon dont on traite l'objet foncier. Et la terre, c'est ce qui est le plus viscéral. C'est l'attachement à la terre et c'est quelque chose qui est très dur à réformer et je suis quand même content que ça, qu'on ait une nouvelle version et que ça n'ait pas été mis au placard.
Alors, je vais faire un petit pas de, je vais répondre à la question évidemment, mais je fais un petit pas de côté pour adresser des félicitations sincères aux gens qui ont rédigé cette série d'amendements et d'ailleurs à ceux qui avaient aussi rédigé le premier projet de loi. Je le dis peut-être pour les gens qui écoutent et qui ne passent pas les week-ends que Paco et moi nous passons, que nous ne passons pas ensemble, je le dis, à se pencher sur ce genre de texte, parce que sachez cela, le nouveau texte, qui est donc une série d'amendements, comme vous l'avez dit, fait 273 pages, et cela vient amender un texte qui en faisait déjà 130, et qui a été scindé en deux, ce qui veut donc dire qu'il y a encore des dizaines d'autres pages qui arrivent. Et vraiment, j'ai lu tout ça, et je le dis, c'est une preuve supplémentaire que la fonction publique luxembourgeoise fonctionne et à très haut niveau. Il n'y a pas besoin de preuve de ça, mais c'est une preuve de cela parce que quand vous lisez ce texte, vous voyez que c'est carré comme la Corée, c'est technique, c'est avec des locutions latines, des passages en allemand, c'est précis, c'est chiant, et chiant dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, des fois, vous lisez un passage et vous dites « Ah, là, ils n'ont pas pensé à un truc », et vous voyez quatre pages plus tard qu'ils y ont pensé. Donc vraiment, comme on dit, vrai reconnaît vrai, je reconnais que ceux qui ont écrit cela, ils ont craché un fuego muy muy azul, hein, ils ont craché un feu vraiment très bleu. Et donc, félicitations à eux, je crois que c'est important aussi de le dire, félicitations à Madame Guint, à Monsieur Fassbender, à Monsieur Goerens, à Monsieur Schitgen, qui, de ce que je sais, ont piloté tout ça, vraiment bravo à eux, parce que c'est du très très bel ouvrage. Après, je me permets peut-être de rajouter une petite nuance dans ce qu'a dit Paco quand il dit que c'est la première fois qu'il y a cette volonté-là. Je dirais pas ça ainsi, je dirais que c'est une fois supplémentaire que cette volonté vient sur la table et c'est peut-être la première fois que c'est à ce niveau-là, parce que des impôts qui sont censés servir cela, à savoir avoir une taxation plus résolue, notamment des terrains, puisqu'il s'agit de ça, des terrains constructibles non construits, existent déjà d'ailleurs. Hein. Vous avez les impôts spécifiques des communes, vous avez le B6 dont les gens entendent souvent parler, puis vous avez aussi des réglementations, parce qu'il n'y a pas que la taxation, vous avez des réglementations qui pourraient servir le même objectif, comme par exemple l'obligation de construire, comme par exemple la préemption, l'expropriation, comme j'en ai déjà parlé, les taxes spécifiques sur les terrains non construits. Donc, des dispositifs entre guillemets similaires ont déjà existé, voire pas ont déjà existé, d'ailleurs existent en réalité, mais ce que le gouvernement a remarqué, c'est que ces dispositifs-là sont des dispositifs communaux et les communes qui ont le droit, le pouvoir, mais jusque-là pas l'obligation d'activer ces dispositifs qui sont en leur possession, ne les activent pas. Et donc là, la chose monte au niveau national, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, au niveau parlementaire, au niveau national, donc l'impôt de mobilisation serait quand il existera un impôt, on va dire, national, alors que l'impôt foncier, entre parenthèses, restera un impôt communal, et les taxes que j'ai citées ou les réglementations que j'ai citées qui existent encore aujourd'hui et que les communes n'activent pas, étaient en main communale. Donc le changement, il se fait à la fois dans la nature et dans le degré, mais c'est une première nouvelle par rapport à quelque chose qui existait déjà, mais qui, factuellement, ne marchait pas. Alors, est-ce que le nouveau marchera, ça...
On le verra.
Poser la question est une preuve que la question se pose.
Alors, on ne peut pas parler de cette réforme sans évoquer, donc on l'a un petit peu évoqué, hein, l'IMOB, hein, ou l'impôt à la mobilisation de terrain. C'est l'outil qui est censé combattre efficacement la spéculation immobilière. Mais dans la pratique, ça paraît quand même très lointain. Et le timing en devient, à mes yeux, presque indulgent. Alors, on parle... Pour pas que je me trompe, d'une phase test en 2029 pour une première année fiscale en 2030, ce qui veut dire que jusqu'à 2034, quoi qu'il arrive, les propriétaires de fonciers constructibles ne seront pas inquiétés.
Ça, les faits, tu les as mieux dit que moi, c'est vrai. Après, il peut y avoir des sortes d'anticipations qui peuvent être faites par certains acteurs. Mais je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que ce n'est pas nécessairement la spéculation qui est visée, c'est plus la rétention, qui est vraiment un problème, que ce soit chez les familles ou chez les promoteurs, de vraiment avoir la possibilité de, d'arbitrer entre la construction et la conservation. Et je pense que cet impôt à la mobilisation, je pense que sa portée est très large, parce que ça signe un petit peu qu'il y a eu une prise de position sur un sorte de conflit larvé au sein de la société, où d'un côté on a un certain segment qui est porté sur le statu quo, sur l'entre-soi, sur les droits de propriété, et de l'autre une partie de la population qui voudrait voir le pays avoir plus de logements, être peut-être plus ouvert, participer au débat politique et parlementaire. Et cette réforme de l'impôt d'immobilisation, ça vient un petit peu, pour la première fois, donner raison à la partie de la population qui voudrait sortir un petit peu de ce Luxembourg très refermé sur soi, où la terre est sacro-sainte et on ne peut pas toucher à la terre. Et je pense qu'il y a aussi parmi les promoteurs, certains promoteurs qui viennent de l'étranger, qui voudraient bien construire plus, qui sont forcés de construire plus parce qu'ils ont des investisseurs derrière, et qui, par manque de foncier, sont un petit peu coincés. Donc on a vraiment, je crois, cette opposition entre les partisans d'un statu quo d'un Luxembourg qui reste très traditionnel, et une ouverture vers un pays qui peut-être est prêt à accueillir plus de gens, et prêt par des dispositions nationales, comme vient de le dire Michel-Edouard, à essayer de mettre pression sur les détenteurs historiques pour permettre d'accueillir plus de gens dans le pays. Parce que je pense que c'est vraiment ça, c'est l'impôt de la mobilisation sert à créer plus de logements pour pouvoir offrir plus de logements à ceux qui veulent venir et qui sont au Luxembourg, mais qui sont aujourd'hui forcés de travailler depuis des pays frontaliers, où on voit que la demande des frontaliers s'essouffle. Quoi. On a deux sur trois pays où on a des frontaliers qui ne veulent plus venir. Les gens décident que ça ne vaut plus le coup.
Alors, je vais traduire le Paco, mais avant, je tiens, Monsieur Ariano, à vous adresser, alors je ne sais pas si c'est un regret ou un reproche, je tiens à vous dire que, évidemment, je suis ravi de croiser le fer avec Paco, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu en plus, mais je regrette, je trouve dommage qu'il n'y ait pas avec nous, autour de la table, quelqu'un qui pratique l'art qu'on est en train de critiquer. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas, ici, autour de la table, un grand propriétaire foncier. Après, Paco est peut-être grand propriétaire foncier, mais il n'est pas là à ce titre. Donc, quelqu'un qui serait là à ce titre, un promoteur ou quelqu'un d'une riche famille luxembourgeoise très dotée en terrain, parce que bon, on ne va pas se mentir, ces gens, ils vont prendre cher, ils commencent déjà, on va leur mettre directement à la carotide. Et j'aurais trouvé bienvenu qu'ils soient là pour expliquer, voire justifier, pourquoi ils ont les comportements qu'ils ont, comportements sur lesquels nous avons un ensemble de choses critiques, voire négatives à dire. Donc voilà, je ne sais pas s'ils ne sont pas là parce qu'ils ne veulent pas venir, parce que vous ne les invitez pas, ou parce qu'ils se disent que Paco est un type pas sympathique, et donc du coup ils ne veulent pas venir discuter avec lui, parce que moi, ça va de soi que je le suis. Mais je regrette leur absence. Bon, maintenant...
Moi aussi. Comme ça, ce n'est pas faute d'avoir essayé.
Vous le savez bien que je m'en doutais. Donc voilà, je ne vais pas citer les noms, mais ils se reconnaissent. Venez, Paco n'est pas aussi méchant qu'il a l'air. Et moi, je suis la sympathie incarnée. Maintenant, vous avez dit, et Paco a un peu repris, vous avez utilisé un mot, et je fais observer que ce mot se trouvait dans le titre du communiqué de presse du ministère qui présentait la réforme de l'impôt foncier et de l'impôt de mobilisation. C'est le mot spéculation qui était encore une fois utilisé par les ministères eux-mêmes et qui, pour le coup, dans le contexte luxembourgeois, est un très très mauvais mot dans le contexte qui nous intéresse. Alors, je vais flexer un peu, tout en sachant que le sens des mots, on vit à une époque où on s'en passe volontiers. Y a des gens qui sont des menteurs et des lâches, mais qui sont quand même respectés. Vous avez beau leur dire, ils se comportent comme s'ils étaient nés avant l'invention de la honte, mais ça passe quand même. Je sais tout ça, mais je vais quand même m'arrêter sur ce mot un petit temps, le mot de spéculation, pour faire remarquer que spéculation, donc ça vient de specare, c'est la même racine que spectacle, specula, speculari, Ça veut dire observer, guetter. Donc spéculer, ça ne veut pas dire autre chose que regarder, observer. Dans le sens économique du terme, spéculer, c'est observer, regarder, chercher, trouver une bonne affaire. Et dans le sens fiscal, notamment luxembourgeois, hein, il existe au Luxembourg la taxation des bénéfices de spéculation qui, depuis l'année dernière, dans les différents générales, c'est a été modifié, qui fait qu'on considère qu'il y a un bénéfice de spéculation quand vous vendez un bien immobilier si vous l'avez détenu jusqu'à 5 ans seulement, alors qu'avant c'était que 2. L'année dernière c'est passé à 5. Donc, spéculation dans le contexte luxembourgeois, il y a l'aspect court terme. Or là, nous sommes... Enfin, on est dans une situation où il est considéré comme problématique des gens qui gardent, qui font l'inverse en réalité, qui gardent le terrain pendant très longtemps. C'est pour ça que Pacu a parlé de rétention. J'aime bien le mot thésaurisation parce que là-dedans, il y a l'aspect trésor. Les gens gardent ça comme si c'était un trésor. Donc, le mot spéculation, il est vraiment très mal... C'est qu'un mot, mais il est quand même très mal choisi. Mais vraiment très mal choisi, surtout dans le contexte luxembourgeois où il y a une définition fiscale déjà arrêtée de spéculation. Vous ne pouvez pas, en cohérence, dire au niveau de l'impôt sur le revenu, vous êtes spéculateur si vous détenez le bien en dessous de 5 ans et dans le contexte de l'impôt de mobilisation, qualifier des gens de spéculateurs parce qu'ils ont détenu le bien plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans. Donc, les gens du ministère, je vous ai félicité avant. Là, je vous invite à gagner en gainage sur l'utilisation de ce mot. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, j'aimerais juste faire remarquer parce que Pacu a, je ne sais pas si opposé, c'est le bon mot, mais il a mis côte à côte ceux qui seraient des défenseurs du statu quo et ceux qui seraient portés sous l'ouverture du pays. Factuellement, ce sont très souvent quand même les mêmes. Et c'est ça, hein, vous savez, c'est les situations où les attitudes des gens sont différentes de leur comportement et vice-versa. Parce que je me permets de faire remarquer qu'il existe tout plein d'impôts au niveau communal qui ne sont pas appliqués et que ce sont, dans le même temps, les bourgmestres qui sont aussi députés qui vont voter cette loi et qu'ils estiment comme nécessaire. Donc il y a sur cette question de foncier, de détention foncière, de rétention foncière, il y a quelque chose qui n'est pas loin de la schizophrénie. Je ne sais pas comment on en sort, mais c'est quand même quelque chose. Cette opposition entre ceux qui voudraient et ceux qui ne voudraient pas, je suis relativement convaincu que ce sont souvent les mêmes.
Il reste quand même la fracture par rapport au logement et la fracture par rapport à la participation politique. Ça veut dire que ceux qui sont exclus de la participation politique au niveau national, c'est ceux qui sont les plus mal lotis au niveau du logement et de l'accès aux fonciers, sans parler même de tous ceux qui sont frontaliers et qui contribuent au bien-être du pays sans pouvoir contribuer même au niveau local.
Oui, mais ça reste vrai. Ça reste vrai. Mais le point que je soulevais juste, c'était de dire que les mêmes personnes peuvent dire quelque chose et ne pas l'appliquer. Et c'est l'exemple entre la différence qui peut exister dans le comportement et l'attitude des bourgmestres qui vont quand même voter la loi au niveau national lorsqu'ils ont la possibilité dès aujourd'hui de l'appliquer au niveau
communal.
Mais
là, je pense qu'il faut s'intéresser au timing.
Oui, non, mais évidemment, mais toujours est-il que ce sont les mêmes personnes. Et sur la question de la représentation politique et sur le fait que les gens qui sont les détenteurs de terrain ils sont très peu nombreux en réalité. Ils sont très peu nombreux. Mais, vous voyez, dans cette histoire d'attitude et de comportement, moi je me permets de faire un parallèle potentiellement douteux, mais que je vais le faire quand même. On se demande souvent pourquoi les gens ne mobilisent pas les terrains qu'ils ont. On se le dit ça, pourquoi ils ne le feraient pas? Moi je trouve qu'une question qui est encore meilleure, c'est celle qui consisterait à se demander pourquoi le feraient-ils? Et je fais le parallèle que je voulais faire, c'est est-ce qu'on est certain, pas dans le degré, mais dans la nature des choses, est-ce qu'on est certain dans la nature des choses qu'il y a une vraie différence entre quelqu'un qui possède un terrain constructible, qu'il en laisse vacant, qu'il ne mobilise pas, et un individu donc, qui sera taxé au titre de l'impôt de mobilisation, et un individu qui vit à deux dans 500 mètres carrés? Est-ce que dans la nature de sous-utilisation de l'espace, pas dans le degré, est-ce que dans la nature il y a une différence? Personnellement, je considère que non.
Mais ce qui compte, c'est le quantitatif. C'est le nombre de logements.
On est dans le degré des choses. Je l'ai moi-même implicitement dit. Hein.
C'est un degré de magnitude différent.
Mais je l'ai dit moi-même.
Dans la nature, c'est...
Donc, du coup, la question, c'est pour ça que je dis la question de se demander pourquoi les gens ne le font pas, mais la question qui consistera à leur poser pourquoi ils le feraient me semble encore meilleure. Parce que la chose, c'est aussi ça. Hein, c'est que la question qui devient une question politique et sociale, c'est de dire cette propriété privée qu'est le terrain, En fait, c'est une propriété privée sur laquelle la communauté devrait avoir des droits supplémentaires. C'est cette question-là qu'il faudra frontalement poser. Parce que sinon, c'est encore une fois la question de la nature des choses, de sous-occuper un logement beaucoup trop grand pour soi, alors qu'il y a des familles qui ont des difficultés de se loger, qui sont des logements suroccupés, etc. Et on est soi-même hyper à l'aise dans le logement qu'on occupe avec un impôt foncier anecdotique. Dans la nature, il n'y a pas de différence de celui qui dit, d'accord, il y a des gens qui ont besoin de logement, mais moi, mon terrain, je le garde, il est à ma propriété, j'en fais ce que je veux. En l'occurrence, je n'en fais rien parce que je n'ai pas à le faire, parce que je n'ai pas besoin de le faire. On dit, oui, d'accord, ce n'est pas vous qui avez besoin, c'est l'autre. Je dis, mais ce n'est pas mon problème. Tout comme l'autre dit, ce n'est pas mon problème d'être dans ce
mètre. La différence, elle fait peut-être plus sur le niveau du confort, parce que quelqu'un qui resterait avec son partenaire dans 500 mètres carrés, c'est plus une question de confort de le garder, le logement, plutôt que, alors que la personne qui a un terrain qui prend 5% de valeur tous les ans, et je suis très conservateur en disant 5%, eh ben, elle a tout intérêt à le garder, en fait. Hein.
Ben, l'autre aussi, hein, encore.
Ce qu'on entend, c'est que des fois, c'est juste aussi une question de ne pas savoir quoi faire avec l'argent. Mmh. Et ce qu'on entend souvent, c'est que pourquoi est-ce que je vendrais ce terrain ? Parce que je vais toucher... voilà, si c'est 1 million d'euros, je sais comment le dépenser, mais qu'est-ce que je fais avec 20 millions, 30 millions d'euros ? Qu'est-ce que je suis supposé faire avec cet argent-là ? Mm-hmm. Donc on est vraiment bien loin du besoin et de question de confort. C'est vraiment une question de voilà. Il y a une valeur qui est là et qui est même trop élevée pour... l'imagination qu'en ont les propriétaires. On est vraiment à un degré d'absurdité qui est tel.
Et donc du coup, on retombe encore une fois sur la question n'est pas pourquoi ils le font pas, mais pourquoi ils le feraient. Mmh. Et encore une fois, et cette question-là, c'est pour ça que j'invite à la mettre en parallèle avec la question de la liberté d'utiliser sa chose comme on l'entend, et le fait d'assumer ou pas, de dire, écoutez, pour le besoin de la communauté, pour le besoin du développement du pays, ben, il y a une propriété privée dans laquelle il y a déjà énormément d'interventions publiques dans la propriété immobilière. Hein. Vous ne pouvez pas avoir un terrain, si vous voulez faire dessus un bien qui fait 150 étages, vous ne pouvez pas. Donc en fait, il y a déjà de l'interventionnisme là-dessus. L'idée, c'est d'assumer, d'aller encore plus loin. Est-ce que l'impôt de mobilisation, c'est la meilleure façon de le faire ? Je ne vous ai pas posé la question, mais j'y réponds quand même. Je suis d'avis que non, hein, parce que voilà.
D'accord. On va revenir sur un sujet qu'on n'avait pas abordé au départ. Donc, on parlait de l'impôt sur les logements vides, l'INOL. Il ne fait plus partie intégrante du projet de loi. Enfin, il a été scindé, hein, vous en avez parlé, qui a été présenté donc au mois de juillet et a été remis au mieux à plus tard. Alors, il n'y a pas vraiment eu de précision à ce sujet-là. Pourtant, il pourrait avoir un impact considérable si l'on en croit les estimations de l'Agence immobilière sociale. Et à court terme, est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu ? On parlait il y a deux ans de 10 000 à 20 000 logements vides. Alors, c'est des estimations qui ont été remises en question plusieurs fois, on est bien d'accord. Mais entre 10 000 et 20 000 logements vides qui pourraient être disponibles assez vite, si c'est vraiment le cas, pourquoi est-ce qu'on met ça à demain ?
Je pense qu'il y a... C'est une question qui est d'ordre technique et qui revient vraiment à la base de l'INOL, de l'impôt sur la non-occupation, c'est que pour pouvoir identifier les logements vides,
il faut un registre.
Mmh. Et le Luxembourg a des décennies de retard sur la plupart des autres pays européens sur la connaissance du terrain, de combien de logements est-ce qu'il y a exactement dans le pays, combien est-ce qu'on a de logements à Luxembourgville. Je pense que personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Et il y a des décalages immenses dans le pays entre des communes où on a une très bonne idée de ce qui se passe, de combien de logements il y a, de qui est inscrit où, de qui est propriétaire de quoi. Je pense aux communes du sud du pays, sur Alzette, du Lange, où on a quand même des registres qui sont vraiment mis à jour et qui pourraient dès demain être utilisés pour taxer les logements vides. Mmh. Et d'autres parties du pays où il y a eu, par simplicité administrative, un délaissement de la question de savoir exactement où étaient inscrits les gens. Donc ça, malheureusement, l'INOL a besoin de ce registre pour pouvoir être prélevé de manière objective. Mmh. Parce que l'idée, c'est de pouvoir savoir pour un logement donné, pour un appartement à l'étage 10 de la résidence du côté gauche de l'ascenseur, il y a cet appartement-là. Mmh. Et dans cet appartement-là, on sait que le propriétaire est monsieur et madame X et qu'il n'y a pas aujourd'hui de personnes inscrites dans ce logement et qu'il n'y a personne inscrite dans ce logement depuis 6 mois. Mmh. Et ce sera sur la base de cette information-là qu'on pourra prélever objectivement un impôt sur nos occupations. Faire quelque chose en absence de registre ouvre la voie à trop de recours et trop d'interprétations. Et ça ira, je pense, contre l'intérêt d'une telle loi.
Et raisonnablement, on pourrait s'attendre, si on s'y mettait vraiment, combien de temps, de délai pour pouvoir mettre sur pied un registre. Parce que depuis que je fais cette émission, j'entends parler de ce registre et je n'ai pas l'impression que ça avance.
Alors, si ça avance, ça avance. Dans, la phase de construction informatique va commencer.
OK.
Donc, c'est une étape très importante. Et une fois que cet outil informatique sera créé, il faudra que les informations soient chargées. Mmh. Et c'est là que les difficultés commencent, parce qu'on peut charger des données cadastrales, des données de la poste, des données de différentes sources pour répertorier le nombre d'adresses, le nombre de logements, etc. Mais les communes devront aussi valider ces informations. Et comme je disais, pour des communes où ils font déjà ce travail depuis longtemps, où ils inscrivent les gens de manière transparente et objective, ça ne sera pas un gros travail. Mais pour une grosse partie du pays, y inclut la capitale, ça sera un travail pharaonique. Et je ne sais pas comment vont s'organiser les différentes communes, y inclut Luxembourgville, pour vraiment répertorier de manière très précise. On a beaucoup de maisons de rapport à Luxembourgville, dans les quartiers les plus chers, qui sont détenus par une personne, c'est des maisons. Pour le cadastre, c'est une maison avec un propriétaire. Mais en fait, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 10 boîtes aux lettres, des appartements, des locations par chambre, et c'est répertorié dans aucune base administrative. Mmh. Donc le propriétaire de cette maison de rapport peut déclarer qu'il touche 3000 euros par mois de loyer, tout en ayant 10 personnes dans cette maison qui payent chacune 1000 euros. Mais il n'y a aucune base administrative qui permette de même vérifier ça, cette information. Donc on est même plus loin encore que l'INOL. Hein. Sans ce registre-là, on ouvre la porte à toutes les fraudes possibles. Mm-hmm. Parce que c'est le Wild West, quoi, le marché.
Mais c'est le cas. C'est le cas actuellement.
Exactement.
Ouais. Exactement. Alors, moi, je crois beaucoup dans la force publique et dans les pouvoirs publics, et un peu moins parfois dans leur bonne volonté. Mais je crois dans leurs forces et leurs capacités. Bon. Et en disant ça, je me permets de faire remarquer, une fois de plus, que des moyens existent, si on veut, de lutter contre des logements vacants qui ne devraient pas l'être. Donc je vais lire un article de loi qui existe actuellement, c'est l'article 27 de la loi... Quelle loi extraordinaire de 2006 sur le bail à usage d'habitation, la loi qui réglemente les loyers dans ce pays, loi qui est... Enfin bref.
On en a déjà parlé.
Ceux qui savent, savent. Article 27, le conseil communal peut, il n'est donc pas obligé, mais il peut, par règlement communal, obliger les propriétaires des immeubles et parties d'immeubles non occupés destinés à servir de logement si sur le territoire de la commune à les déclarer à l'administration communale dans le délai fixé par le dit conseil.
Mais encore une fois, sans vision objective de combien il y a de logements et desquels sont potentiellement vides, on ne peut pas appliquer ce genre de choses.
Non mais, moi je vois qu'il existe un article de loi qui le dit, qu'il peut obliger cela en prenant un règlement communal. Donc, c'est-à-dire au niveau des... Non, mais la chose, c'est que c'est toujours pareil. Hein. Vous savez, c'est des fois, on dit, pour faire quelque chose, il faut que ce soit la perfection ou on ne fait rien. Donc, aujourd'hui, je ne parle pas de l'INOL, je dis juste que cet article de loi existe depuis longtemps. Donc, je suis juste en train, d'une fois de plus, de parler de ce qui ressemble une non-volonté d'eux. Maintenant, si la chose, c'est de dire, si on l'applique, ce ne sera pas parfait, il y a beaucoup de choses qui sont appliquées et qui ne sont pas parfaites. Mais toujours est-il que je fais remarquer que cette disposition existe et je suis relativement certain que des communes qui ne serait-ce qu'essayent de l'appliquer avec toute l'imperfection qui irait avec. Des gens qui... Bon, voilà.
T'imagines les recours, si c'est pas 100%...
Ben, moi, je ne suis pas très bon pour imaginer. Je suis bon pour... Non, mais j'en sais rien. Je connais... Je vais pas citer un avocat de la place qui est très doué pour aller gagner des recours pour des propriétaires. Mais c'est pas ma question, en fait. Ma question, c'est juste de dire qu'il existe aujourd'hui un article de loi qui permettrait aux communes de faire des choses qui seraient impropres, qui donneraient lieu à des recours, mais les communes font d'autres choses qui sont... Enfin, je veux dire, il y a des recours contre les PAP, contre les PAG, contre le fait qu'on trouve des lézards et des chauves-souris. Donc, les recours, ça fait partie de la vie de la démocratie dans un pays qui a un état de droit. Mon point, c'était pas celui-là. Mon point, c'était juste de dire que je fais remarquer cette histoire de logements vacants. Les communes, une fois de plus, ont un outil à leur disposition qu'elles n'utilisent pas. Chacun en tirera la conclusion qu'il veut. On pourra dire qu'elles l'utilisent pas parce qu'il y aurait des recours. On pourra dire qu'elles l'utilisent pas parce que ce serait pas parfait. J'en sais rien pourquoi elles le font pas.
Moyens,
mais en tout cas, c'est un fait indiscutable que cet article existe, et c'est aussi un fait indiscutable que les communes ne mettent pas ça en branle. Après, sur cette histoire selon laquelle, c'est pas une histoire, c'est une fable, il existerait 10 000 à 20 000 logements, enfin, je veux dire, à un moment, quand on ne sait pas, il faut dire qu'on ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Point. On ne sait pas combien il y a de logements vacants au Luxembourg, la vérité, c'est ça.
On ne sait pas combien il y a de logements tout court.
D'ailleurs. Et on ne sait pas combien de logements on a construit depuis 2020.
Ça exactement,
fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, mais on parle du logement avec certitude.
Mais si on revient sur cette question juste qu'on a abordée au tout début de l'émission sur l'impôt foncier standard, donc pas l'immeuble ni l'inol, le fait d'avoir un impôt foncier, comme disait Michel-Edouard, qui est insignifiant, fait que si on garde son logement inoccupé, il n'y a aucune pénalité. On paye ses 50 euros par an comme on paye pour sa résidence principale ou moins, et basta. Si l'impôt foncier généralisé était à un niveau plus élevé, il y aurait moins d'incitation à garder un logement vide. Donc on revient toujours à la même chose. Ne pas taxer la propriété de la terre ou des appartements ou des maisons revient à ne pas mettre de pression sur les propriétaires sur l'utilisation de ce bien.
Il faut considérer l'impôt foncier. Et quand je parle d'impôt foncier, en ce moment précis, je ne parle pas d'impôt sur les terrains, je le redis, je parle d'impôt sur les logements. Il faut le considérer comme ce qu'il est censé être, un impôt sur la fortune. Voilà. Donc vous avez un logement, vous l'habitez, c'est votre résidence principale, ou c'est un logement que vous possédez parce que vous ne voulez pas avoir de voisin, donc vous avez acheté le logement en haut, en bas et à côté, ou c'est un logement que vous gardez vide parce que, après tout, c'est votre droit. D'accord, c'est une fortune que vous avez, il faut taxer cela. Et je me permets, d'ailleurs, de montrer à quel point au Luxembourg, cette question de la taxation, et là je parle encore une fois des logements même existants déjà, y compris occupés par leurs propriétaires, il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas de sens, dans le programme du parti LSAP lors des dernières élections. Et donc on va dire que c'était le programme, c'était pas des LEC, mais c'était un programme de gauche progressiste, et d'ailleurs leur progressisme était affiché dès la première page. Il y a une partie où ils disent de mémoire qu'ils vont analyser l'opportunité de remettre au Luxembourg l'impôt sur la fortune, qui a été donc supprimé, voilà ça, plusieurs années. Et donc ils disent, ils vont analyser la possibilité de remettre l'impôt sur la fortune, et ils ajoutent après cette phrase, en considérant un abattement généreux, et c'est eux qui ont mis généreux dans leur propre programme, de 2,5 millions d'euros, virgule, pour ne pas pénaliser, entre autres, la résidence principale. Je veux dire, c'est quoi ce truc? Beaucoup d'amour pour le LSAP, évidemment, mais c'est quoi ce truc qui consiste à dire on va mettre un impôt sur la fortune avec une exonération de 2,5 millions d'euros? Enfin, je veux dire, à un moment, riche, puisque si on veut parler de ça, ça commence quand même bien avant 2,5 millions. Quoi. Donc, bon, mais c'est toujours cette idée de pas toucher à la résidence principale. 2,5 millions d'euros, je pense qu'on est à l'aise en termes de mètres carrés. Bon.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup de dispositifs fiscaux, on ne fait aucune différence entre les contribuables. Par exemple, le Belgian Act est donné à tout le monde, quel que soit le revenu du ménage. Mais pour ce qui est de la résidence, la propriété, on fait la distinction entre résidence principale et autre résidence. Donc ça montre un petit peu que d'un
une côté,
on arrose tout le monde, et de l'autre, on préserve une certaine population. Et ça revient toujours à cette question d'une frange de la population qui veut garder ses avantages et qui ne se rend pas compte du mal que ça fait pour le développement général du pays et pour le bien-être de la population qui y travaille. Et à un moment donné, il faut vraiment qu'on ait cette discussion honnête. On ne peut pas garder tous les avantages qu'on a toujours eus et espérer que les choses continuent aussi bien qu'avant. À un moment, on se tire une balle dans le pied.
Ah, et encore une fois, dans cette question de nécessité d'avoir une discussion honnête, je ne veux pas dire honnête, moi, ce n'est pas Kou qui l'a dit, je précise. Moi, je vais dire cohérente. Et l'incohérence, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2022, de mémoire, l'Observatoire avait publié une étude sur les dispositifs socio-fiscaux. Et tout le monde, journaliste, homme politique, professionnel chambreur, tout le monde disait, regardez, cette étude a prouvé que c'est anti-redistributif et on ne taxe pas les loyers. Alors que l'étude concluait que si c'était l'une des principales raisons que c'était anti-redistributif, c'est-à-dire qu'en fait que le système était supra-bénéfique pour les personnes les plus aisées, c'était parce qu'il y avait la non-taxation des loyers implicites. En français simple, la non-taxation des loyers implicites veut dire qu'il n'y a pas d'impôt sérieux sur les logements occupés par les gens qui les occupent. En français. Donc en fait, quand les gens, tous, journalistes, professionnels chambreurs, politiques de tous bords, étaient en train de féliciter les conclusions de cette étude et de dire que c'était un scandale, il fallait faire autre chose, concrètement, ils étaient en train de critiquer le fait que l'impôt foncier sur la résidence principale était aussi insignifiante. C'est ça qu'ils étaient concrètement en train de faire sans éventuellement s'en rendre compte, et ils s'apprêtent à ne pas modifier l'impôt foncier tel qu'il existe. Encore une fois, la cohérence n'est pas partagée par tout le monde, de toute évidence.
Il y avait un petit peu l'amortissement accéléré aussi
un petit peu,
qu'on a critiqué quelques années, mais qui est revenu en force. Voilà.
L'incohérence toujours. Mais cela dit, la conclusion de l'étude, c'était vraiment ça. Hein. Mais puisqu'on est dans ces incohérences-là, je vous avais dit que tout le monde allait prendre au niveau de la carotide, l'amortissement accéléré, il y a ceux qui savent, et puis il y a ceux qui ne savent même pas d'ailleurs. Sachez que l'amortissement accéléré au Luxembourg, c'est quelque chose qui fait que vous allez pouvoir déduire 4%, 5% jusqu'à 1 million et 4% au-delà, si vous achetez un logement neuf, peu importe le prix du mètre carré. Et d'ailleurs, dans ce système-là, plus le mètre carré il sera important en termes de prix,
plus on déduit.
Plus vous pourrez déduire. Mais en même temps, on veut...
En plus, on ne sait même pas quel est le coût ou quel est le déchet fiscal de cet instrument.
On ne sait même pas, mais on sait tellement pas de choses. On ne sait pas le nombre de logements qui ont été construits depuis 2020. On ne sait pas le nombre de logements vacants. On ne sait pas le nombre de logements. On ne sait pas combien. Il y a eu l'estimation qu'avait donné M. Graménia à M. Cruten de 50 millions, mais ça, ce truc-là, déjà 4 ou 5 ans. On ne sait pas combien coûte l'amortissement accéléré en déchets fiscaux. On ne sait pas combien coûte l'amortissement pour usure. On ne sait pas grand-chose. Pour piloter une politique du logement qui est un sujet aussi important, le piloter autant à l'aveuglette, je veux dire, c'est Stevie Wonder qui est en train de conduire un avion, quoi. J'ai beaucoup d'amour pour Stevie Wonder et pour les avions, mais l'un dans l'autre, c'est quand même curieux.
Alors, avant de clore cet épisode, je me permets de résumer, s'il veut espérer répondre au moins en partie à la problématique de la pénurie de logement, Luxembourg devrait donc avancer sur trois fronts. La mise en vigueur d'un nouvel impôt foncier. Bon, on a établi que la nouvelle version ne va pas changer grand-chose. La mobilisation des terrains constructibles via l'IMOB et l'identification, puis l'introduction des logements vides sur le marché luxembourgeois. Alors la question, elle est ouverte à vous deux. Est-ce que ça, si on arrive à mettre tout ça en branle, est-ce que ça suffirait à régler le problème une bonne fois pour toutes ?
Je laisse pas court réfléchir, j'ai ma réponse. La réponse est ni oui, ni non, bien au contraire.
Très bien.
Je pense que ça envoie un signal important que la fête est finie et que le logement est un problème sérieux qui nécessite des réponses qui font contribuer tout le monde, qu'il n'y a pas de population ou de secteur épargné par la crise du logement, et que c'est pas parce qu'on n'est pas en problème de logement soi-même que la crise du logement n'affecte pas le développement du pays et dans le futur son propre bien-être. Et je pense qu'il y a un petit peu un aveuglement court-termisme de dire, si moi, ni ma famille, ni mes enfants ne sont pas affectés par la crise du logement, pourquoi est-ce que je dois m'y intéresser ? Et je pense que la raison, c'est que le logement est un ingrédient essentiel au fonctionnement de toute société, et que si le logement n'est pas accessible et trop cher, force les gens à faire 3 heures de voiture tous les jours pour venir travailler, le développement économique du pays ne peut pas continuer. Et je pense que c'est vraiment l'impôt foncier, surtout l'impôt et la mobilisation, ça vient justifier cette approche de dire que personne n'est épargné, même ceux qui ont été toujours les plus protégés, les propriétaires de fonciers.
Très bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Antoine, Michel-Edouard, je vous remercie d'avoir participé une nouvelle fois à la Bulimo. À nos auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un numéro hors série sur le fameux Bullogen Act dont on a parlé aujourd'hui. Merci à vous.
Merci.
Merci.